En votre nom, je remercie Laure Mézière qui a travaillé cet été, comme vous l'avez remarqué. Et ce que moi je dirais comme impression principale, c'est que on est content qu'elle l'ait fait, et tellement qu'on voudrait qu'elle continue. C'est-à-dire qu'on voudrait connaître la suite de l'histoire pour la période révolutionnaire. Peut-être aussi on a envie de savoir quelle est la trace que la Révolution a laissée ensuite sur l'histoire de Saint-Antonin au XIXe siècle. Donc il y a beaucoup de suites qui sont appelées par cette conférence. Maintenant, je donne la parole à ceux qui veulent poser des questions.
Vous n'avez pas donné le nom donné à Saint-Antonin, il s'agissait bien entendu de Libreval, qui n'a tenu que quelques mois. Deuxième moment, pour s'occuper des nécessiteux à Saint-Antonin, on avait chargé un abbé prébendé, l'abbé Fontenille, de s'occuper de cette tâche à laquelle il s'est acquitté de façon remarquable. Son nom subsiste encore dans une petite rue à droite de la rue Saint-Angèle.
Alors, je suis Catherine Langlais, dont M. Amalric a évoqué avec Jean Badial et nos petites recherches de Caussadet. Donc, si je peux juste compléter ce qui a été dit pour faire quelques différences. La première chose que je voudrais dire sur le résultat de nos recherches sur la société du XVIIIe siècle, c'est que Saint-Antonin était en fait très lié à Caussade, contrairement à ce qu'on peut penser vu son éloignement géographique. Vous permettez que je me lève? Ces liens, ils sont des liens beaucoup économiques, puisque Saint-Antonin, comme Caussade, a développé des liens de négoce avec Saint-Domingue. L'ancienneté de ces liens est due au phénomène du protestantisme, où beaucoup se sont exilés pour gagner leur vie et ont donc créé des réseaux familiaux de négoce international. Et ce qui est vrai à Caussade est dans une moindre mesure vrai à Saint-Antonin, ne serait-ce que par les liens de mariage entre des négociants protestants. Par exemple, un grand négociant de Caussade a épousé une Touron, qui était une famille d'armateurs de Saint-Antonin. Boudet, donc, a été associé à des Tourons et ils étaient présents et implantés au Canada avant 1763. Et les Boudet, qui étaient une grande dynastie de négociants, qui ont joué un grand rôle dans la révolution à Caussade, je vais pouvoir arriver à la suite, ont plusieurs alliances avec les Tourons. Pour revenir aux choses qui peuvent être communes entre Saint-Antonin et Caussade, donc moi j'ai eu la chance de tomber par hasard sur les mémoires d'un noble toulousain qui a passé 2 ans à Saint-Antonin et qui après la révolution a écrit ses mémoires, et il a des descriptions assez précises de, soyons honnêtes, la bonne société saint-antoninoise. Il écrit que à Saint-Antonin comme à Caussade, la plupart des grandes familles urbaines, on avait bien une société très urbaine comme vous la décrivez, tous ces gens ne peuvent en fait vivre, parce que l'économie locale de Saint-Antonin est en train de péricliter, que parce qu'ils ont des métairies et les produits de la terre. D'où l'importance donnée dans les cahiers de doléances aux histoires de taille et de cadastre, puisque le principal de l'imposition de l'ancien régime, surtout en Quercy, reposait sur la terre et le foncier. Donc, ce que dit bien Fonvielle, puisqu'il s'appelle comme ça, c'est que pour la plupart des grandes familles de Saint-Antonin, sans métairie et les ressources agricoles, pas de fortune. Voilà. Donc ça, c'est un point commun avec Caussade. La chose qui les rapproche de Caussade aussi, et on revient à ces réseaux de protestantisme et de franc-maçonnerie, alors, on n'a pas connaissance à Caussade, ce qui ne veut pas dire que ça n'ait pas existé, d'une société littéraire, ce qui est effectivement un signe très fort de société urbaine. Alors, Fonvielle nous confirme bien quand même, moi je vous parle des liens des protestants, mais aussi des liens entre familles nobles jusqu'à Montauban. Il faut pas. Alors, la poste marchait très bien. Avec le grand chemin de Villefranche, de Caussade à Villefranche et vers l'Auvergne, les liaisons se faisaient facilement et les nouvelles circulaient beaucoup. À Caussade, on a une loge maçonnique qui, elle, j'en suis persuadée, a joué un rôle très important, mais dont les membres aussi s'investissaient dans la vie culturelle. Donc on a cette correspondance. Moi, je sais le rôle politique, enfin, je sais, nous savons, puisque je ne suis pas la seule à avoir travaillé dessus, mais j'ai beaucoup travaillé sur ce qui s'est passé après le déclenchement de la Révolution, sur le rôle important qu'ont joué les membres de cette loge maçonnique dans les institutions révolutionnaires. Donc peut-être qu'à Saint-Antonin, on a la même chose. Voilà ce qui me semble rapprocher les sociétés de Saint-Antonin et Caussade. Ensuite, pour le déroulement de la Révolution, par rapport à tout ce que vous évoquez, je pense que Caussade, ce qui s'est passé à Caussade à partir de la Terreur, a été manifestement un contre-modèle pour beaucoup de villes. Et quand vous évoquez le fait que Saint-Antonin a essayé de rester discrète par rapport au tribunal révolutionnaire à Villefranche, c'est qu'à Caussade, les dissensions entre protestants et catholiques et donc le suivi de la Révolution ont été très très forts. Ils se sont ravivés à ce moment-là. Au moment de l'exécution de Louis XVI, une partie de la population de Caussade a manifestement estimé que la Révolution allait trop loin. Le roi était extrêmement aimé et respecté, et touché à la personne d'un monarque de roi divin pour des gens qui étaient quand même catholiques. Alors, Fonvielle dit qu'avant la Révolution, Saint-Antonin comptait tranquillement 3000 protestants avoués. Donc finalement, plus de protestants avoués que de catholiques. Ce qui explique et que les relations étaient très pacifiées entre les deux communautés. Fonvielle l'écrit, les gens vivaient en très bonne intelligence et sans conflit. Je ne suis pas sûre que c'était le cas à Caussade, pour d'autres raisons historiques. Bref, au moment de la mort de Louis XVI, la population catholique, d'abord on a beaucoup plus de prêtres réfractaires à Caussade qu'à Saint-Antonin, en particulier le prêtre de l'église principale qui est Notre-Dame de Delfreis, l'église que vous connaissez tous, lui devient réfractaire. Donc une partie de la population manifeste à la mort de Louis XVI. Et là, les protestants montalbanais, avec lesquels étaient très liés les protestants caussadais dont je vous ai parlé, qui sont au pouvoir à Montauban et qui ont l'expérience traumatisante du 10 mai 1790, où on a cru la Saint-Barthélemy revenue, font une, il n'y a pas d'autre mot, c'est une descente armée à Caussade. En 24 heures, on limoge la municipalité, on arrête, et surtout, ce sont les Montalbanais qui vont nommer la municipalité. Rabot Saint-Étienne et Jambon Saint-André s'installent à Caussade. Et 16 Caussadais, plus un soldat dont on va savoir qu'il était déserteur, qui était à Caussade à ce moment-là, sont arrêtés. Et au lieu d'être envoyés à Montauban, sur demande de Jambon Saint-André, appuyé par des protestants caussadais, d'une grande famille de négociants avant la Révolution, sont envoyés au tribunal révolutionnaire à Paris. Ils sont tous guillotinés. Donc, je pense que dans le Quercy, dans le Bas-Quercy et jusqu'ici, vu les liens qu'il y avait entre les familles, cet exemple de ce qui s'est passé à la Terreur à Caussade a dû profondément inciter les municipalités et les populations à surtout essayer de calmer le jeu. Et d'ailleurs, à Caussade, après cet épisode extrêmement violent, on voit bien que les municipalités s'efforcent pendant toute la Révolution de pacifier les choses. Voilà, je pense que c'est, si ça peut éclairer. Je voudrais juste dire un mot pour finir et après, excusez-moi d'être aussi longue, sur monsieur de Lastic-Saint-Jal. Donc ils étaient déjà seigneurs de Casse, hein, qui n'est pas très Casse, c'est ça le château. Le château de Casse était déjà leur seigneurie. Donc ils étaient par mariage, exact. Ils étaient d'une noblesse très ancienne et reconnue et ont été alliés à des Gastebois qui venaient eux de Guyenne et qui à la Révolution seront tous catholiques et contre-révolutionnaires. Je pense que monsieur de Lastic-Saint-Jal, qui comme beaucoup de familles de la... Alors, il ne s'entendait pas très bien avec le seigneur engagiste de Saint-Antonin à la veille de la Révolution, qui était un Maurès de Malartic, comte de Montricou, qui avait le fermage de la seigneurie ici. Les Maurès de Malartic étaient fidèles et le resteront au trône. Était une grande famille qui a donné des amiraux, des gouverneurs des îles, qui étaient donc eux aussi très liés avec l'outre-mer français. Donc monsieur de Lastic-Saint-Jalles ne s'entendait pas avec monsieur de Maurès de Malartic, mais était très très respecté de la population. On le voit bien au début de la Révolution, il est élu commandant de la garde nationale, il est une personnalité respectée. Ils ont d'ailleurs, et c'est pour ça qu'ils ont envoyé du monde partout, passé des pactes fédératifs avec les gardes nationales d'autres coins. Si monsieur de Lastic-Saint-Jalles a été incarcéré sans être inquiété, c'est parce que de toute façon, à partir de la Terreur, son statut d'ex-noble et de père d'émigré le rendait suspect de par la loi. Et que les représentants de la Convention dans le Quercy, des protestants pour la plupart, se sont montrés très très durs vis-à-vis des anciennes familles, des familles de l'ex-noblesse. Mais je pense que monsieur de Lastic-Saint-Jalles est resté très aimé de la population, même après la Révolution, quoi, voilà. Bon, excusez-moi d'avoir été aussi longue, mais je pense qu'on voit bien les liens entre Caussade et toutes les villes de ce coin du Bas-Quercy.
Merci. Je voudrais dire un mot sur la famille de Lastic, puisque vous en avez tant parlé, parce que j'ai rencontré il n'y a pas très longtemps un de leurs héritiers ici qui parle de l'histoire de sa famille, et au XVIIIe siècle en particulier, comme d'une famille qui était très ouverte aux idées de l'encyclopédie. Il y a d'ailleurs dans la maison qui est en face un exemplaire d'original de l'encyclopédie, donc des idées nouvelles du XVIIIe siècle, et donc la noblesse, on l'aperçoit peut-être aujourd'hui comme un bloc, mais elle ne l'était pas totalement du point de vue idéologique. Je ne sais pas si vous dire ce mot, mais... D'autres demandes de parole.
Oui, deux petites questions. Y a-t-il eu l'épisode classique de l'Arbre de la Liberté à Saint-Antonin? Et puis, deuxième question, c'est cette société littéraire donc, que je ne connaissais pas et qui ouvre, ça titille l'esprit. Est-ce qu'on connaît l'inventaire de la bibliothèque? Parce que c'est un élément important, savoir qu'est-ce qu'ils lisaient, qu'est-ce qu'ils avaient acheté, puisque les statuts parlent de livres ou d'imprimés, disons. Et là, tout de suite, Thierry Leroy parlait du rôle de l'encyclopédie. Enfin, on est dans le mouvement des idées, c'est des choses qui sont intéressantes. Et est-ce qu'il y a des documents là-dessus ou dans les archives?
Écoutez, nous avons les statuts auxquels j'ai fait référence, mais je n'ai pas pour le moment, et vous savez que les archives de Saint-Antonin sont en cours de reclassement à Montauban, mais je n'ai pas trouvé pour le moment de référence à des registres de délibération ou autre de cette société. Donc en réalité, vous le voyez, ce que nous en savons, c'est sa fondation, c'est sa fonction. Sur son fonctionnement régulier, pour le moment, nous sommes à court. Mais ça veut dire une chose, ça veut dire qu'il reste beaucoup de travail à faire pour des chercheurs, pour s'investir dans les archives, voilà.
Merci. Je voulais juste faire une petite remarque. Vous présentez la population et les municipalités et les élites comme, on dirait, plutôt prudentes pendant la période révolutionnaire, et suiviste en quelque sorte. Lorsque moi j'avais travaillé un peu sur le changement de nom Libreval, ce qui m'avait frappé, c'était justement qu'il y avait, ce qui m'apparaissait, c'est qu'il y avait aussi un sens de l'initiative. Vous avez évoqué le fait que ce n'est que 15 jours après que le gouvernement de Robespierre ait proposé de changer de nom pour les municipalités qui avaient des noms à consonance religieuse, que Saint-Antonin a décidé de changer de nom. Donc 15 jours, c'est très court, sachant qu'il faut à peu près une semaine déjà pour que les infos arrivent de Paris à ici à cette époque. J'ai plus en tête les détails, mais par exemple, moi, ce que j'avais remarqué, c'était que le calendrier révolutionnaire avait été adapté à Saint-Antonin avant qu'il soit adapté au niveau national. Donc moi, ce que j'avais vu, c'était que nous n'avions pas que affaire à des gens prudents et suivistes par rapport à la Révolution, mais que nous avions des gens qui étaient dans la Révolution, réellement, et qui étaient capables de prendre des initiatives dans le sens de la Révolution. Voilà, c'était une remarque. Merci.
Je peux peut-être réagir à ce qui vient d'être dit. Je ne crois pas que tout ça soit tout à fait contradictoire. Car mon sentiment, si vous voulez, c'est que la Révolution à Saint-Antonin avait commencé avant la Révolution, dans les têtes, dans les esprits, notamment de l'élite, comme on l'a dit, sans doute aussi du clergé, parce que je pense que l'absence totale de réaction du clergé s'explique par une sorte déjà de déprise par rapport à la discipline traditionnelle de l'Église. Et finalement, si vous voulez, ils se trouvent ensuite dans le mouvement, ce qui ne veut pas dire qu'à certains moments, ils ne font pas de zèle. On peut faire du zèle dans un courant politique sans pour autant, souscrire à des mesures extrêmes. Il n'y en a plus besoin, si vous voulez, parce qu'on n'a pas une opposition très forte à laquelle s'affronter. Voilà. Donc je crois personnellement qu'il y a là une certaine cohérence dans la situation propre à Saint-Antonin et qui n'est pas, comme on l'a vu quand même, la même qu'à Caussade, malgré les liens et malgré les similitudes. Monsieur Badia demande la parole.
Oui, simplement pour revenir à Caussade, s'il y avait une partie de la bourgeoisie riche et très influente, à grande conviction protestante, qui va amplifier ses convictions et peut-être, pour simplifier, régler des comptes, un petit peu, comme l'a dit Catherine, il y avait également, à l'opposé, en face, une noblesse catholique déjà qu'on pourrait qualifier d'ultra, hein, les Lacombe, hein, à Montes. Je dis ça simplement à la lecture des œuvres de Madame Catherine Langlais. Elle a oublié de le dire tout à l'heure, me semble-t-il, ou alors ça m'a échappé. Hein, des Lacombe, des Guintran, dans l'environnement immédiat de Caussade, d'ailleurs, Lacombe au départ, à Montes, faisait partie de Caussade, et c'est le même qui m'a dit que, j'ai pu le vérifier, s'il avait voulu faire la désunion, entamer la désunion Montes-Caussade, et il a abouti, il y avait le facteur religieux certainement qui devait influencer, dans les Guintran à la Vorette, etc., les de Lesseps au Colombier, ces gens également se sont montrés des catholiques assez radicaux et assez durs, c'est-à-dire que il y a eu une radicalisation en quelque sorte dans les deux camps. Voilà ce que je voulais dire. Peut-être. Et donc cela a influencé incontestablement une partie de la population, notamment paysanne. Voilà, les petits paysans.
Peut-être, là aussi, je crois que vous mettez le doigt sur une réalité, une différence sensible, parce que ici, en dehors de cette personnalité de Lastic Saint-Jal, avec une seigneurie de casse qui, pour autant que je sache, n'était quand même pas une seigneurie très rentable. Le château était déjà, je crois, très démantelé et ça ne devait pas être un très gros rapport. Et d'ailleurs, je pense qu'il n'y a pas à Saint-Antonin et dans ses environs proches l'équivalent, effectivement, de cette petite constellation de seigneuries autour de Caussade avec des seigneurs très présents et qui cherchent à en tirer, malgré tout, un revenu à maintenir, je dirais, leur rang social en s'appuyant sur la seigneurie. Donc la faiblesse du tissu seigneurial autour de Saint-Antonin fait que, en réalité, la noblesse terrienne n'est pas très, très, très présente et très active. Il faut aller jusqu'à Fénérol, d'un côté, pour trouver... Et ces gens-là ne se mêlent pas tellement à la vie de Saint-Antonin, pour autant que l'on sache.
Très petite question, mais... C'est un détail qui m'accroche. Comment se fait-il qu'il y ait 500 indigents dans une ville dont Thierry vient de me dire qu'elle avait 5000 habitants? Est-ce que c'est habituel dans les autres cités du coin?
Non, mais d'abord, c'est une situation de crise. Hein. C'est une situation de crise. Et c'est un afflux qui se produit pendant cette terrible année 88-89. Il ne faut pas imaginer, je pense, que ce soit la situation normale au cours des décennies précédentes. Voilà.
Est-ce qu'on observe la même chose, par exemple, à Montauban ou à Périgueux ou à Rodez?
Écoutez, chaque localité a son histoire. Ce que l'on sait, c'est que les campagnes sont profondément déstabilisées par cette grande crise agricole qui coïncide avec la convocation des États généraux. C'est ce qui a fait le malheur de Louis XVI, si vous voulez, c'est cette concomitance. Alors, elle a pris une ampleur plus ou moins grande selon les régions. Et ici, à Saint-Antonin, effectivement, le document dont parlait tout à l'heure Laure Mézières est tout à fait explicite. Je l'ai sous les yeux. Le lendemain, il arriva en cette ville 1 à 1200 hommes armés, en plus. Alors, armés. Ils pouvaient être armés avec des faux, avec des fourches, si vous voulez. Mais enfin, voilà. Venant de l'Albigeois, de Verfeil, Najac et autres villes voisines. Voilà. Donc, il est certain que on a là une sorte de crise rurale qui vient évidemment trouver un exutoire dans la ville. Ou d'ailleurs, on a vu que finalement la municipalité, elle s'en sort bien. Elle s'en sort bien. Elle arrive à canaliser cette poussée de désespoir populaire rural.
Bah, en fait, on observe à cette époque la même chose qu'on observe aujourd'hui quand il y a des crises alimentaires en Afrique ou ailleurs. Bah, les gens vont dans les villes parce que l'aide, elle peut venir que de la ville, en fait. La campagne, voilà. Donc, il y a un afflux. Et moi, vu le contexte, ça me paraissait pas énorme. Mais c'est vrai que, voilà, il y avait, en tout cas, à plusieurs reprises, la mairie insiste bien et fait tout, que ce soit au niveau des taxations, de l'achat du blé qu'elle va ensuite faire moudre, vendre à des prix raisonnables. Enfin, il y a plein de moyens pour aider ce qu'elle appelle les indigents, les nécessiteux. Et il y a énormément dans les archives de textes assez lyriques là-dessus, sur la misère, sur des mots vraiment très émouvants. C'est pas du tout... voilà. Alors, effectivement, ça fait peur aussi aux notables. Mais il y a quand même, on sent une préoccupation du conseil municipal, en tout cas.
Et une gestion de crise efficace, quand même, comme on dirait aujourd'hui.
Pour la petite histoire, est-ce que vous pouvez dire quelques mots, Laure, sur les prénoms qui étaient donnés aux enfants après la Révolution ?
Oui, alors c'est avec la mise en place du calendrier révolutionnaire. C'est vrai que ça a été très rapide sur Saint-Antonin et donc la volonté de changer de nom. D'autant qu'en plus, il y a très peu de communes avec un patronyme religieux qui ont changé de nom. En réalité, ça c'est vraiment, je crois, 2%. Enfin, c'est un chiffre, une moyenne qui est vraiment tout à fait dérisoire. Et donc à Saint-Antonin, on s'est précipité. Donc je rejoins tout à fait Monsieur Folle là-dessus, parce que effectivement, il y avait des gens qui devaient être qui avaient envie de tout ça. Et d'ailleurs, j'ai eu l'impression que la dénomination de Libreval a été entérinée immédiatement par le conseil municipal. Et comme c'est un nom qui a été repris par pas mal de municipalités, ensuite on leur a demandé de rajouter Sidehan, Saint-Antonin, etc. Parce que sinon ils n'arrivaient plus à savoir de quelle ville il s'agissait. Mais voilà, donc ils ont été obligés un petit peu de faire machine arrière. Mais c'est vrai qu'ils étaient très très volontaires. Donc sur la liste des prénoms, en fait, ça commence dès novembre 93. Donc j'ai l'impression que c'est vraiment ça arrive très très rapidement. Donc effectivement, avec le calendrier révolutionnaire, donc nous avons des tas de prénoms d'un genre nouveau, que ce soit patriote, républicain, Mercure aussi. J'ai pas vu de Jupiter, mais peut-être. Et puis plein de noms de fleurs, des noms de légumes, donc narcisse, balsamine, charmille, muguet, jasmin, charme, voilà quoi. Scipion, enfin tout un tas de... C'est assez étonnant, quoi. Et on reconnaît les noms de famille de Saint-Antonin, c'est assez marrant. Voilà, donc il y en a eu beaucoup sur Saint-Antonin dans l'état civil. Alors là, ça a été un très grand succès, hein, au niveau des prénoms. Ben voilà, Saint-Antonin. Et dès novembre 93, donc il faudrait que je vérifie la date de la mise en œuvre du calendrier révolutionnaire, mais à mon avis, ils vont au-devant, j'ai l'impression, des demandes de Paris.
Jean-Baptiste Foll.
Juste, je peux donner une information par rapport aux indigents. Donc 500 indigents, ça semble beaucoup, mais effectivement, les récoltes de 87 et de 88 sont exécrables, et c'est une des causes aussi du climat révolutionnaire. Dans les archives, quand j'y étais allé, j'avais vu qu'en 1816, une enquête avait été demandée par la préfecture pour recenser les indigents de Saint-Antonin. Et alors, de mémoire, hein, je ne sais plus si c'est à cette époque-là, on en recense 162 ou 168, c'est-à-dire nettement moins donc qu'à la période révolutionnaire, pour une population à peu près égale. Voilà, pour vous donner l'information, oui. Mais voilà, en se rappelant qu'il y a eu deux récoltes exécrables en 87 et en 88.
Oui, mais c'est pas la même jauge, justement. Ceux de 1816, je dirais, c'est les indigents normaux, enfin résidents, si j'ose dire. Et les autres, c'est cet afflux qui vient des campagnes. Donc on a deux catégories de populations quand même bien différentes.
Le but de cette enquête de 1816, j'abonde dans votre sens, c'est de donner justement une patente aux indigents de la commune afin qu'ils puissent mendier dans les murs de la commune. Donc c'est effectivement là les indigents proprement dit la commune et on fait la différence avec les autres.
Oui, juste une toute petite remarque. Je n'ai aucune raison d'intervenir car je ne suis pas d'ici, mais je suis Rochelais. Je suis donc d'une ville protestante, d'une famille partagée entre catholiques et protestants d'une part, républicains et royalistes de l'autre. Je voudrais simplement dire que, s'agissant des Rochelais, bien sûr, au moment de la Révolution, la franc-maçonnerie et le protestantisme ont été très importants à la Rochelle. Mais ensuite, les protestants n'ont pas voulu se salir les mains. Et sans vouloir reprendre un schéma binaire comme celui dont vous avez parlé ce matin, par exemple, dans ma jeunesse, les armateurs étaient catholiques. C'est eux qui avaient fait fonctionner la traite des Noirs qui enrichit, étaient surtout catholiques, mais les financiers et les directeurs de banque étaient tous protestants. Tout, il n'y avait pas une. Je veux dire par là que vous voyez comment les choses se sont gérées. C'est tout, c'était une petite remarque.
Il y a une demande de parole de la représentation caussadaise.
Simplement pour le nombre d'indigents à la veille de la Révolution, à Caussade, 400 pour 2400 habitants à l'intérieur, en ville, urbain. Voilà. Et 4000 sur l'ensemble de la communauté. Voilà. 400 quand même, c'est assez important.
Et on arrive à des ordres de grandeur comparables. Peut-être un mot encore pour rappeler que si la grande peur ici se révèle une panique sans objet, on n'en dira pas de même forcément partout. Et en particulier dans la zone du Bas-Quercy, à l'ouest de Caussade justement, la région entre Castelnau, Montratier, Montpezat et Moissac, il y a là alors de véritables assauts qui sont donnés à des châteaux. Il y a des incidents parfois très graves et la répercussion de ces troubles alimente évidemment plus loin le récit de la grande peur. Je veux dire par là que cette grande peur n'est pas un événement uniforme. Il y a eu des explosions ponctuelles et ensuite les rumeurs se sont chargées de les grossir et de les transformer éventuellement en panique, mais des paniques éphémères finalement.
Catherine Langlais.
Alors, je complète pareil pour continuer la comparaison entre ce qui s'est passé à Saint-Antonin et ailleurs. Pour Caussade, on a des comptes rendus de délibération des consuls, puisqu'on était toujours sur le consulat à l'époque. Et contrairement à l'explication que vous donnez, Caussade ne le vit pas de la même manière. Peut-être y a-t-il aussi ici cette dimension de la mémoire des conflits protestants-catholiques qui font que les paysans des campagnes affluent aussi à la ville pour défendre une place de sûreté protestante, ce qu'a été Saint-Antonin également. Donc Caussade, les consuls explicitent clairement ce facteur en disant que 3000 hommes sont venus des communes environnantes pour se porter à la défense de Caussade. Ils ne parlent pas d'indigents, de réfugiés des campagnes. Ils font la même chose qu'à Saint-Antonin. Ils gèrent la crise. Donc ils achètent du pain, du vin, ils font servir dans les cabarets partout. Et les hommes repartent apparemment. Mais chez les Caussadais, le sentiment, c'est qu'on vient défendre Caussade, comme au temps du protestantisme, on défendait Caussade ou Saint-Antonin contre des raids de catholiques. Merci.
Moi, je réagirais volontiers à ce qu'on a entendu depuis le début et à ce que vous avez ajouté, Catherine Langlais, en proposant que si on donne une suite à cette conférence dans notre bulletin, un article, il pourrait être axé sur un parallèle entre Saint-Antonin et une autre commune importante de la région, Caussade. Ce que vous avez dit les uns et les autres fait plutôt ressortir un contraste. Et ça pourrait être intéressant de faire un parallèle. D'autres questions ?
Montauban paraît aussi probablement une source très intéressante avec madame, la dame bien connue là. Mais est-ce qu'il y a eu la fête de l'être suprême à Saint-Antonin ?
Oui, ça c'est la période de suivante. D'après Georges Julien, d'après ce que j'ai entendu sur les émissions, ce qu'il disait, c'était qu'il n'y avait pas eu. Il n'y a pas eu apparemment, en tout cas, on n'a pas raconté. Donc lui soupçonnait qu'il n'y avait pas eu lieu, enfin voilà, ça n'avait pas eu lieu. Parce que justement, il n'en avait pas trouvé la trace. Donc il se disait peut-être qu'ils ne l'ont pas fait. Voilà, tout simplement. Après, je ne sais pas. C'est à voir, quoi, à creuser encore.
Alors, pareil, je peux faire le complément avec Caussade. On ne trouve pas de traces dans les délibérations municipales de célébration à l'être suprême. On en trouve dans ce qui sont des preuves indirectes, dans des débats retranscrits de la société populaire. On en trouve... Bon, après, au moment de la réaction aristocratique à Montaigne, juste à côté de Caussade, mais la situation était la même, où un prêtre défroqué affirme avoir fait retentir X fois le nom de l'être suprême dans le temple de la raison, qui, vous vous en doutez, était l'ancienne église de Montaigne. Donc, comme le dit madame, je pense que ça a eu lieu, mais en trouver des traces et des preuves historiques est compliqué.
Merci. Merci beaucoup. Il faut les applaudir. Merci. À bientôt.